Bonjour, merci d'être venu pour cette première table ronde à la Bourse du Travail sur l'urgence du long terme. L'urgence du long terme, le titre est bien choisi. On a l'impression que nous sommes dans une société où le court terme, le court-termisme s'impose partout, à tous, à cause des technologies, à cause des marchés financiers, à cause de la course à la vitesse. Donc on a l'impression de ne plus voir au-delà du court terme, au-delà du coin de la rue, de ne pas avoir d'horizon plus long. De ce point de vue-là, j'ai été frappé, je viens de lire un livre d'un pseudo-économiste, vous me direz, ou qui est à la tribune, qui s'appelle Stephen Roach. Stephen Roach, c'est un espèce de gourou américain, économiste, qui travaille pour une banque. Et il vient de sortir un livre qui s'appelle The Next Asia, la prochaine Asie, enfin, l'Asie qui vient. Et c'est très intéressant par rapport au sujet que nous allons traiter là. Il vient de passer, cet économiste américain, il vient de passer 4 ans en Asie, à Hong Kong, parce que comme économiste, il s'est dit c'est quand même là-bas que ça se passe. Et il voulait comprendre ce qui se passait là-bas. Et c'est un livre qui réunit un certain nombre de ses contributions, de ses interventions, de ses articles. Et la conclusion principale qu'il tire de son expérience de 4 ans, il est retourné aux États-Unis au début de cette année. Et il dit, ce qui me frappe, la grande différence qui explique le boom économique, le développement économique en Chine et la situation à ses yeux catastrophique aux États-Unis et en Europe sans doute aussi, c'est l'horizon de temps. Il dit, là-bas, en Asie, ils travaillent avec une perspective à long terme. Tous, que ce soit au niveau des États, que ce soit au niveau des entreprises, ils travaillent à 20 ans, à 30 ans, à 50 ans. Et c'est tout à fait vrai. Moi, je travaille sur notamment la Chine. Et si vous voulez, les programmes en Chine, ils ne sont pas faits à 3 ans, à 5 ans. Ils sont faits à 20 ans. Et ils se projettent dans l'avenir, et non seulement intellectuellement, mais également dans la pratique, dans leurs investissements et dans leur politique économique. Donc, je pense que cette thématique, l'urgence du long terme, effectivement, pour nous, dans les pays européens, dans les pays développés, c'est un des sujets, évidemment, que la crise économique, que la crise financière que nous venons de vivre met en avant. Là aussi, pour me permettre d'introduire, je dirais que je fais du journalisme économique depuis longtemps. En fait, je calculais, ça doit faire à peu près 30 ans. Et d'une certaine manière, le sujet que nous traitons n'est pas nouveau, même s'il y a une urgence. Il n'est pas nouveau parce que je me rappelle que quand j'étais petit, jeune journaliste, les premiers sujets que j'avais traités, c'est le problème des fonds propres des entreprises. C'est-à-dire, les entreprises françaises n'arrivent pas à trouver de l'épargne longue. C'était comment on peut faire pour que les gens préparent leur retraite en constituant une épargne longue. Bah, c'était aussi le thème. C'était le grand débat quand j'ai commencé, c'était le financement d'Eurotunnel. Bah, on a dit, est-ce que Eurotunnel, qui est un grand projet, structurant, coûteux, incertain, est-ce que ça devait être financé comme Margaret Thatcher l'a finalement imposé, uniquement par des capitaux privés au départ, ou est-ce que ça devait être financé par des capitaux publics? Voilà, je dirais que ces problématiques-là, vous voyez, on les retrouve aujourd'hui, peut-être dans des termes différents, on va le voir, mais finalement, ils étaient déjà au centre des débats depuis longtemps. Alors, c'est vrai que la crise, c'est vrai que ce qui vient de se passer nous amène à nous interroger sur le système financier, celui qui permet de relier l'épargne à l'investissement, savoir est-ce que ce système financier, administratif, politique, est-ce que ce système fonctionne bien? C'est l'objet de notre table ronde. Est-ce qu'il y a des investisseurs qui sont porteurs du long terme, justement d'un horizon long dans ces mécanismes? Est-ce qu'on peut les imaginer? Comment ils peuvent se définir? Comment ils peuvent avoir des politiques d'investissement? Quels sont les critères qu'il faudrait, qui doivent-ils être d'ailleurs? Alors, cette table ronde, l'un des éléments de cette table ronde, c'est un rapport que le Conseil d'analyse économique a publié il y a quelques mois, qui est très intéressant, sur investissement et investisseurs de long terme. C'était justement un peu toutes ces problématiques que nous allons voir maintenant. Donc, l'urgence du long terme, je vous propose, avec les trois intervenants, il y a deux des auteurs du rapport, et Christian Gollier a également fait une contribution dans le rapport. Donc, deux des auteurs vont vous donner un peu le cadre général, quelles sont les problématiques, et nous en débattrons, et ensuite vous aurez la parole. Alors je vais présenter les trois intervenants. Jérôme Glachan, qui est professeur d'économie, en finance en particulier, en politique économique, qui est à l'université d'Evry, et qui a été donc un des rapporteurs de cette étude. Alain Quinet, qui est à ma gauche, qui est le directeur des finances de la Caisse des dépôts. Alors, je vais lui juste lui demander quelque chose. Comment je peux dire la Caisse des dépôts, c'est quoi? Pour ceux qui ne sauraient pas. Enfin, je ne veux pas une présentation, mais juste pour dire...
C'est un investisseur de long terme.
Voilà, un investisseur de long terme. Donc, on aura l'occasion d'en parler. Et Christian Gaulier, qui est le directeur de l'École d'économie de Toulouse, qui a eu... un certain nombre de prix et qui a travaillé notamment aussi sur cette question. Alors d'abord, je vais proposer à Jérôme Glachan de nous fixer un peu le cadre macroéconomique. Est-ce qu'il y a suffisamment d'épargne dans le monde? Est-ce que c'est un problème d'épargne? Est-ce que c'est un problème d'investissement? Est-ce que c'est le lien entre les deux? Voilà, alors Jérôme Glachan.
Merci. Donc, merci beaucoup pour cette introduction. Donc effectivement, nous sommes partis d'une réflexion sur ce rapport qui était d'abord au départ des réflexions macroéconomiques et sur la question de l'égalisation entre d'un côté l'épargne qui semble abondante sur la planète et d'une épargne longue qui est bien présente et de l'autre côté des investissements de long terme qui semblent avoir du mal à se réaliser. Donc la problématique qui était sous-jacente au départ, c'était bien une problématique finalement qui est très macroéconomique, qui est celle de l'équilibre entre investissement et épargne. Et c'est une problématique presque même au départ keynésienne. Dans ce sens-là, c'est bien dans cette égalité entre investissement et épargne et la manière dont elle peut se résoudre que l'on trouve une explication à l'équilibre macroéconomique que l'on voit dans les pays, mais aussi sur la planète entière. Donc notre point de départ, c'est un point de départ macroéconomique et un point de départ macroéconomique global, mondial. Ensuite, on a réfléchi et orienté nos réflexions sur la situation française par rapport à cet équilibre mondial et donc sur la manière dont en France, précisément, avec les spécificités françaises, l'égalisation entre épargne et investissement s'effectuait avec des apports extérieurs, évidemment de capitaux ou des capitaux qui sont éventuellement exportés vers l'extérieur. Donc c'est les deux points que je vais développer maintenant. D'un côté, le contexte macroéconomique mondial qui est important à comprendre en toile de fond, parce que c'est un contexte qui est durable, qui va rester encore quelques années, peut-être quelques dizaines d'années. Donc c'est dans cette idée-là qu'on doit se placer. Et puis ensuite, la situation française par rapport à ce contexte et la manière dont la France règle son équilibre entre épargne et investissement et savoir si elle parvient à effectivement avoir des investisseurs de long terme. Donc je commencerai par parler un petit peu de l'équilibre mondial. Je pense qu'on est dans une situation assez étonnante. Parce que finalement, on est actuellement dans un cas de sous-emploi au niveau de la planète tout entière. On est dans un équilibre de sous-emploi. On a des ressources oisives dans les pays du Sud, dans les pays émergents, où on a beaucoup de gens dans les campagnes qui cherchent à aller vers les secteurs industriels. Donc effectivement, on a des ressources oisives dans les pays émergents et on a aussi des situations de sous-emploi dans les pays du Nord. Donc finalement, le contexte macroéconomique actuellement sur la planète, c'est un contexte quasiment keynésien, enfin moi c'est comme ça que je le résume, où je me dis que finalement on a du sous-emploi, on a de la thésaurisation, on a du mal à avoir une demande qui correspond au niveau d'offres potentielles que peut avoir l'économie mondiale. Donc évidemment, les choses se traduisent différemment d'un pays à un autre. Dans les pays émergents, on voit un fantastique développement avec un déversement massif d'une population sous-employée dans les campagnes vers des secteurs plus industriels qui alimente une croissance qui se fait à un rythme absolument extraordinaire simplement parce que on a cette forme de déversoir qui fonctionne. C'était une idée qui est chère à un économiste qui est Lewis, qui a été prix Nobel. Et puis dans les pays du Nord, on a d'autres difficultés qui sont liées au vieillissement, qui sont liées à la globalisation, à la concurrence des pays du Sud, et qui fait que là aussi, nous avons du mal à ajuster notre offre à notre demande. Et là aussi, nous avons du sous-emploi, et un sous-emploi qui est durable, avec du chômage qui dure depuis longtemps. Donc, tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, l'équilibre entre épargne et investissement, il ne se fait pas de la manière dont on souhaiterait qu'il se fasse. Il y a une forme de thésaurisation, il y a une épargne qui n'est pas utilisée à des fins productives, mais qui est plutôt utilisée comme une réserve de valeur de la part des agents économiques. Donc le fait qu'il y ait cette épargne qui soit plus une réserve de valeur qu'un véhicule d'investissement productif, fait que effectivement on a beaucoup d'épargne, mais on a peu d'investissement en face. Et on a donc un déséquilibre au niveau mondial. Ce déséquilibre, il ne concerne pas forcément l'horizon. L'épargne qu'on a sur la planète, cela peut être une épargne longue. On a une épargne longue dans les pays occidentaux qui est liée au vieillissement, donc la préparation de la retraite. On peut aussi avoir des formes d'épargne longue dans les pays en émergence, quelquefois pour les mêmes raisons. Là-bas aussi, ils doivent préparer leur retraite. Et les Chinois, actuellement, épargnent un montant considérable de leurs revenus disponibles à ces fins de préparation de retraite et pour faire face à des besoins de ce qu'on appelle le cycle de vie des ménages en question. Donc on a bien une épargne longue, elle existe. Le problème, c'est que cette épargne longue, elle ne veut pas prendre de risques. Elle ne veut pas devenir une épargne risquée. Donc on a une situation quelquefois un peu paradoxale, dans le sens où, effectivement, beaucoup d'épargne longue, mais très peu d'épargne qui a envie de prendre des risques. Le véritable déséquilibre au niveau du monde, il est au niveau des flux d'épargne et d'investissement, il concerne plutôt la question du risque que celle de l'horizon. C'est d'abord parce qu'il y a une soif énorme de la part des investisseurs et des épargnants pour de l'épargne, mais pour de l'épargne sécurisée, pour de l'épargne certaine, pour de l'épargne qui est adossée à des titres publics, à des obligations, à des éléments qui ne correspondent pas à des financements risqués ou de long terme des économies. Et donc, c'est là que se situe le déséquilibre, en fait, au niveau mondial. C'est plutôt dans ce qu'on appelle, ou dans ce que Caballero, qui est un macroéconomiste qui a beaucoup réfléchi sur ces questions, appelle l'insatiable appétit des investisseurs pour des titres non risqués. Et c'est ça qui, aujourd'hui, pose problème. Il y a beaucoup d'épargne sur la planète, mais il y a peu d'épargne qui est disposée à prendre des risques. Du coup, cette épargne, bah, elle se loge là où elle peut. Elle se loge dans des investissements éventuellement peu productifs et peu risqués. Elle se loge dans des titres publics. Elle se loge dans des bulles immobilières. Elle se loge dans des titres que l'on pensait certains, mais qui ne l'étaient pas, confère toute la crise financière et donc l'incapacité qu'on a eue précisément à gérer cette épargne non risquée. Donc là, on a un déséquilibre qui est un point fondamental. Ce déséquilibre, il est pour nous durable. Pourquoi est-il durable ? Parce qu'il est lié effectivement à des phénomènes réels et à des phénomènes de sous-développement des marchés financiers et éventuellement des états-providence ou des systèmes de prévoyance. Au sud, dans les pays émergents, ce que l'on voit se mettre en place, c'est effectivement une espèce de transition très rapide du secteur, un développement très très rapide des secteurs industriels qui s'accompagne de migrations internes très importantes avec un besoin d'épargne qui est très important de la part des ménages. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'institution de prévoyance. Donc les Chinois actuellement épargnent 50% de leurs revenus, je crois que je l'ai déjà dit. Il n'y a pas de système de retraite, il n'y a pas de système de santé. Et puis en plus, comme ce sont des gens qui viennent des campagnes, ils ne sont pas habitués à consommer. Donc ils épargnent énormément. Donc ça, ça va durer. Ça va durer le temps que ces pays s'industrialisent plus. Ça peut durer encore une dizaine ou une quinzaine d'années, hein, si on envisage que 20 millions de Chinois peuvent intégrer le secteur industriel par an. Vous voyez que pour résorber 200 millions de populations actives dans les campagnes actuellement sous-employées, il faudra 10 ans. Et donc pendant 10 ans, on va encore avoir cette épargne qui va se développer, des salaires qui ne vont pas augmenter, et donc ce besoin d'épargne sécurisée. En même temps, évidemment, ce développement il est rendu possible par quoi ? Par des stratégies d'exportation, de croissance qui sont basées sur l'exportation, et qui impliquent pour ces pays de maintenir un taux de change bas, ce qui implique également pour ces mêmes pays de maintenir des réserves de change qui sont placées précisément dans des actifs sécurisés. Donc l'épargne chinoise, elle alimente massivement des actifs qui sont des actifs sécurisés émis éventuellement par des pays du Nord, au premier rang desquels bien sûr les États-Unis. Donc ce déséquilibre-là, il va durer et il peut durer encore quelques dizaines d'années ou une dizaine d'années. Dans les pays du Nord, on peut aussi penser que le déséquilibre va rester parce que le phénomène de vieillissement n'est pas arrivé à son terme. Donc voilà ce que l'on pense, le constat sur lequel on est parti, c'est qu'il y a un déséquilibre très fort et qu'il y a beaucoup d'épargne, mais que cette épargne, elle est d'abord une épargne qui cherche des moyens de se sécuriser et pas des moyens de prendre des risques. Et ça, c'est un vrai problème pour l'industrie financière ou pour l'équilibre financier de la planète de manière générale. On l'a vu dans la crise, et la crise n'était qu'un soubresaut de ça. Ce qui s'est passé maintenant, c'est que là où on avait éventuellement des phénomènes de titrisation, donc d'actifs qui étaient émis par l'industrie, produits par l'industrie financière américaine et qui servaient de support sécurisé ou que l'on pensait sécurisé à une épargne, maintenant on a de la dette publique qui se multiplie et qui joue finalement le même rôle de réserve de valeur et non pas d'investissement productif. Donc ça, c'est un constat au niveau mondial. La question ensuite, c'est de savoir, j'en viens à mon deuxième point, ce qui se passe pour la France. Enfin, que peut-on dire de la France dans ce cadre-là ? Alors, j'ai mis un petit graphique que je vous montre. dans lequel on a représenté la situation de l'équilibre investissement-épargne en France et dans le monde. Alors évidemment, quand vous regardez le graphique, il y a beaucoup de courbes, donc c'est peut-être un petit peu compliqué à suivre, mais les traits les plus fins, donc les traits bleus et les traits rouges, correspondent à la situation de l'épargne et de l'investissement en France. Et tout ça pour une période qui va de 1992 à 2009, c'est-à-dire sur la période la plus longue que j'ai pu obtenir. Ce que vous voyez, c'est que sur la première sous-période, de 1990 à 2000, à 2003, d'accord, la France a dégagé des excédents, donc un excédent de son compte courant, c'est-à-dire que la France a plus épargné qu'elle n'a investi. Donc il y a une décennie assez étonnante, pas étonnante, mais la décennie des années 90 en France, c'est le trait rouge, c'est une décennie durant laquelle la France a peu investi, les entreprises françaises ont peu investi. En même temps, la France a épargné, ce qui lui a permis d'exporter des capitaux. Vous pouvez comparer cette situation à la situation du monde. Le trait le plus noir, c'est le taux d'investissement dans le monde. Donc le taux d'investissement et d'épargne dans le monde, puisque voilà, l'équilibre épargne-investissement s'effectue au niveau mondial. Et vous voyez que l'investissement dans le monde a été beaucoup plus vif qu'en France. Donc de ce point de vue-là, la France s'est caractérisée par un sous-investissement par rapport à d'autres pays. Et quelque part, c'est bien normal, puisque ces autres pays se développaient peut-être plus rapidement. C'est un phénomène de convergence, de rattrapage de la part de pays qui sont émergents, et c'est naturel qu'ils investissent plus. Mais ce que vous voyez également, c'est que la France est caractérisée également par un retard par rapport à des pays qui sont comparables, donc par rapport à des pays industrialisés. C'est la courbe rouge qui apparaît sur le dessin, qui est un peu mélangée avec la courbe noire au début, mais qui ensuite s'en détache. D'accord ? Donc effectivement, si on regarde ce graphique-là, on peut se dire que la France a eu du mal, en tout cas dans les années 90 et jusqu'en 2003, 2004, 2005, à maintenir un investissement suffisant dans les entreprises. Et ça, je parle ici de l'investissement corporel. Je ne parle pas de l'effort, évidemment, d'investissement en capital humain pour la formation, etc., qui n'est pas inclus dans ces statistiques. À partir de 2006, la France a commencé à investir plus que les autres pays industrialisés, mais la crise a brisé cet élan. Donc, on voit apparaître quelque chose qui est présent là, c'est qu'il y a eu une dizaine d'années durant lesquelles on a peut-être eu un sous-investissement en France, un investissement insuffisant, en tout cas par rapport à nos partenaires. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est de se dire, est-ce que c'est grave? Est-ce qu'on peut rattraper ce retard? Évidemment, l'idée du rapport, c'est de se dire, on peut parvenir à utiliser la clé, c'est de réussir à utiliser l'épargne qui est sécurisée, qui est disponible sur la planète, massivement disponible, qui n'est pas chère actuellement, avec des taux d'intérêt réels qui sont très bas. Est-ce que l'on peut l'utiliser dans des projets qui sont des projets risqués, des projets de long terme, dans l'économie française et dans les autres économies, mais évidemment dans l'économie française. Une question qui est importante de ce point de vue-là, c'est de se poser la question de l'ajustement entre épargne et investissement à l'intérieur de l'économie française également. Parce que, une remarque qui était d'ailleurs mise en avant tout à l'heure, c'était de se poser la question de savoir si l'handicap français en matière d'épargne, le fait que la France n'a pas de fonds de pension, n'a pas développé de système de capitalisation, est-ce que c'est quelque chose qui nuit au financement des entreprises? Est-ce que c'est quelque chose qui empêche notre investissement? Cette question-là, c'est la question de ce que les économistes appellent le biais domestique. Est-ce que on peut financer nos investissements par des capitaux extérieurs, ou est-ce que cela ne pose pas de problème de financer les investissements par des capitaux extérieurs, ou est-ce qu'au contraire, on doit nécessairement avoir une base locale, une épargne locale, pour financer des investissements locaux? Est-ce que la globalisation a des limites? Et ce qui apparaît également, c'est que il se maintient, malgré la globalisation, un important biais domestique. Je vais vous donner un exemple. La France, aujourd'hui, c'est à peu près 4,5% de la capitalisation mondiale. D'accord ? Donc, si le portefeuille des investisseurs français était composé comme la moyenne des pays du monde, enfin, comme la moyenne du monde, les investisseurs français devraient avoir 4,5% de titres français dans leur investisseurs, dans leur portefeuille, et 95% du titre étranger. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Les investisseurs français ont 30% de titres étrangers et donc 70% de titres français. Donc il y a bien une nationalité. La nation compte en matière d'équilibrage entre épargne et investissement. Donc quand on s'intéresse à les questions d'investissement de long terme en France, évidemment il faut regarder le contexte mondial, parce qu'il y a quand même des apports de l'extérieur, mais il faut également regarder ce qui se passe en France et la manière dont l'épargne se forme en France. Que se passe-t-il précisément en France? La France a une caractéristique, c'est que enfin, c'est pas la caractéristique de la France, mais c'est que l'investisseur terminal, l'investisseur en dernier ressort, c'est bien le ménage qui cherche à constituer une épargne pour sa retraite et pour son cycle de vie, et éventuellement pour de la précaution, c'est-à-dire pour des aléas qui sont des aléas de court terme. Or, de ce point de vue-là, la situation française est différente des autres pays industrialisés. Les ménages français ont une richesse globale qui est importante, de l'ordre de 9 000 milliards d'euros, mais cette richesse est avant tout composée à 60% de patrimoine immobilier. Et si on regarde par rapport à d'autres pays, on se rend compte que les ménages français sont moins riches, rapportés à leurs revenus disponibles en termes de richesse financière, que les autres pays. Donc il y a un handicap français, dans le sens où, un handicap français de ce point de vue-là, dans le sens où la richesse des ménages français est avant tout une richesse immobilière et beaucoup moins une richesse financière. Ça signifie quoi ? Ça signifie que lorsque l'on s'intéresse à l'équilibre épargne-investissement en France, effectivement, nous, on a 300% de notre revenu disponible en richesse financière, pendant que les Belges en ont un petit peu plus, les Pays-Bas encore plus, puisqu'ils ont des systèmes de capitalisation. À quoi cela est-il lié ? Cela est lié au poids de l'immobilier, c'est évident, mais cela aussi est lié au fait que notre système de retraite est avant tout un système par répartition, et donc ce qu'on appelle la richesse de sécurité sociale se substitue à la richesse financière, et donc diminue d'autant la richesse des ménages. Au total, cela signifie quand même que, au niveau de son financement, la France a besoin peut-être plus que d'autres pays d'aller chercher des capitaux à l'extérieur et en particulier des capitaux longs. En effet, lorsque l'on regarde ensuite, on rentre dans le détail et on regarde ces 3 000 milliards qui sont possédés par les ménages français et on regarde la manière dont ils se décomposent. Ils se décomposent en fait en trois blocs. D'un côté, des dépôts, donc des dépôts et des livrets, de l'épargne sécurisée, plutôt de court terme. Donc ça représente à peu près un tiers. Un autre tiers est des OPCVM ou des actions détenues directement. Et puis le dernier tiers qui augmente beaucoup, c'est de l'assurance vie, d'accord, à 35 ou 40%. Donc le véhicule d'épargne privilégié par les Français, c'est l'assurance vie avant tout. Donc la question qu'on doit se poser, l'assurance vie représente 1200 milliards d'euros à peu près, en termes de passif des compagnies d'assurance vie dues aux ménages. La question que l'on doit se poser, c'est à quoi sert cette assurance vie ? Est-ce qu'elle est à même de porter des investissements longs ? Et là, le résultat est relativement mitigé parce que les Français sont friands d'assurance vie, mais dans l'assurance vie, ils cherchent un véhicule d'épargne qui est multiforme, multitâche, qui fait à la fois du long terme, mais qui fait aussi du court terme. Et surtout, ils aiment bien la sécurisation qu'ils ont et ils achètent beaucoup de contrats d'assurance vie qui sont garantis, c'est-à-dire en euros et non en unités de compte. Du coup, les compagnies d'assurance vie, aujourd'hui, sur les 1 200 milliards qu'elles possèdent, qu'elles doivent aux ménages sous forme de passifs, c'est 1 200 milliards qui sont une forme d'investissement de long terme, une forme d'épargne de long terme, pardon, d'accord. Seule une fraction relativement réduite de ces 1 200 milliards servent effectivement à financer les entreprises sous forme d'apport de fonds propres, c'est-à-dire sous forme d'actions. D'accord ? Ça représente à peu près 10 ou 15% du passif des... selon les périodes, ça fluctue. 10 ou 15% du passif des compagnies d'assurance-vie. Autrement dit, les assurances-vie ont du mal à se positionner comme un assureur de long terme, comme un investisseur de long terme, alors que ça devrait être naturellement leur position. Et pourquoi ont-elles du mal ? Elles ont du mal d'abord parce qu'effectivement les Français cherchent une forme de sécurité dans l'assurance-vie, donc ça c'est une demande du public, mais elles ont aussi du mal parce qu'elles doivent sécuriser ces investissements. Elles ont des réglementations prudentielles qui les incitent à orienter leurs placements, non pas forcément vers des actions et vers des obligations. Or, il se trouve qu'actuellement, ces aspects sont renforcés parce que les normes prudentielles se durcissent et qu'on exige de plus en plus de la part des compagnies d'assurance vie de la sécurité. Et donc, il y a le fameux système de solvabilité 2, la mise en place de nouvelles normes prudentielles pour les compagnies d'assurance vie, qui vont faire que ces compagnies d'assurance vie, qui ont un poids crucial dans le financement de l'économie française et dans la captation de l'épargne longue des Français, ces compagnies d'assurance vie, elles vont être moins à même de financer des entreprises sous forme de fonds propres. Alors vous allez me dire, il n'y a peut-être pas que les fonds propres qui comptent, il y a aussi les obligations, mais il est bien connu que ce sont les fonds propres qui permettent d'avoir un financement qui va porter du risque et qui donc va être un financement de long terme qui va permettre aux entreprises de se développer plutôt que des financements par obligation. Excusez-moi. Donc voilà tout ça pour dire que ces difficultés françaises liées au fait que les ménages français ont finalement peu de richesses financières par rapport à d'autres. Ils en ont beaucoup, mais ils en ont finalement peu par rapport à d'autres. Cette richesse financière est largement orientée vers des placements qui sont plutôt des placements très sécurisés et finalement des placements qui ne sont pas véritablement porteurs d'investissements de long terme, fait que la France, peut avoir un handicap par rapport à d'autres pays en matière de financement à long terme. Et c'est donc dans ce contexte macroéconomique qu'il faut réfléchir pour mettre en place des incitations microéconomiques ou des fonctionnements microéconomiques, des institutions microéconomiques, des fonds d'investissement, des investisseurs de long terme, des fonds souverains, etc., qui permettent en quelque sorte de contrecarrer ces handicaps macroéconomiques pour attirer des fonds éventuellement extérieurs afin de financer l'économie française. Voilà.
Merci cette clarté. Alors pour faire la transition, ça n'a évidemment aucun rapport. Juste en entrant dans l'amphithéâtre, j'ai eu une alerte sur mon téléphone, une information qui va sans doute faire du bruit demain, enfin, dans la presse, et qui est en rapport avec notre discussion, c'est que Danone a annoncé qu'il vendait Evian à un investisseur japonais. Donc voilà. Donc c'est une illustration peut-être, c'est la faute d'investisseurs à long terme. Enfin bon, non, c'est peut-être très ponctuel, mais enfin bon, voilà. Alain Quinet, alors justement, les investisseurs à long terme.
Bien, bonjour à tous, merci de votre invitation. Donc peut-être vous dire quelques mots sur, pour alimenter le débat, hein, sur la place du long terme dans nos sociétés et puis la manière dont on pourrait la consolider. Alors ce qui est vrai, c'est qu'on assiste depuis quelques temps à une réhabilitation du long terme, hein, dans le discours public, sous l'effet de deux crises que nous devons surmonter. Il y a la crise écologique, bien sûr, où nous savons désormais que nos choix de vie d'aujourd'hui auront des conséquences potentiellement graves et irréversibles sur les générations futures. Et puis la crise financière. C'est pas la peine de développer ce point-là. Et donc il est assez évident que l'on voit le long terme comme un moyen de surmonter cette double crise. Alors en même temps, je crois que ce qu'il faut d'abord commencer par reconnaître, c'est que cette réhabilitation du long terme, elle est récente et elle reste sans doute encore fragile et elle mérite d'être consolidée. Alors pourquoi je dis qu'elle est récente et fragile? C'est que quand on prend une perspective un peu longue, finalement, ce dont on se rend compte, c'est que le long terme n'a jamais été véritablement valorisé. Quand vous regardez le sujet sous un angle politique, finalement, le long terme, c'est un principe, je dirais, conservateur qui est associé à la monarchie. Et donc, les révolutions démocratiques se sont faites au nom du présent contre le long terme. Et on pourrait citer de nombreuses phrases de Rousseau ou de Jefferson qui montrent cette tension. Hein. Il y a une phrase de Jefferson, par exemple, que je trouve très belle, même si je pense qu'on la dirait plus comme ça aujourd'hui, c'est la terre appartient aux vivants. Et donc le rôle de la politique, c'est d'abord de s'intéresser aux générations présentes. Et puis, je dirais, cette perspective politique, elle trouve sa déclinaison en matière économique. Vous connaissez tous la célèbre phrase de Keynes, à long terme, nous sommes tous morts, qui est une phrase qui incite à penser que la priorité du politique, c'est d'abord de gérer les crises du présent, parce que de la bonne gestion des crises d'aujourd'hui dépendra aussi le bien-être des générations futures. Et donc, dans cette perspective-là, le long terme, ce n'est qu'une succession de courts termes qu'il faut traiter. Et puis, peut-être que Christian Gauly reviendra, c'est vrai aussi en matière financière. Quand vous regardez la manière dont toute la théorie financière est bâtie, en fait, ce qui caractérise les investisseurs, c'est leur tolérance au risque. Mais la théorie financière, jusqu'à présent, s'est peu intéressée à la distinction entre investisseurs courts et investisseurs longs. Donc je crois qu'il faut d'abord reconnaître c'est que le sujet du long terme, c'est un sujet qui, à certains égards, est nouveau pour nos sociétés et puis aussi pour notre réflexion économique. Alors, ceci étant dit, je crois que la deuxième chose à bien noter, c'est qu'aujourd'hui, on est face à des besoins d'investissement long qui sont considérables. Hein. Et ces besoins d'investissement long, je les classerai globalement en deux catégories. Il y a le financement de l'innovation, hein, qui se caractérise par un degré de risque élevé. Et nos sociétés avancées, pour continuer à prospérer, je dirais, dans la compétition mondiale, doivent de plus en plus innover, et leur croissance sera pour l'essentiel, dans les décennies à venir, portée par l'innovation. Puis il y a un deuxième besoin d'investissement long qui se manifeste aujourd'hui, ce sont les besoins d'investissement liés au développement durable. Hein, quand vous regardez par exemple le Grenelle de l'environnement ou bien les projets du grand emprunt, on voit qu'on a devant nous à financer toute une série de nouveaux réseaux. Alors des nouveaux réseaux d'infrastructures, de TGV, des autoroutes de la mer, des réseaux électriques, le véhicule décarboné, etc. Donc on a devant nous des besoins d'investissement longs, avec des retours qui sont souvent différés dans le temps, qui sont risqués, considérables à financer. Et au-delà de ces besoins d'investissement très importants, ce qu'il faut aussi bien voir, c'est qu'on a besoin, pour financer ces investissements longs très, très importants, de davantage de fonds propres. Hein, parce que la crise a bien mis en évidence les limites de l'endettement, hein, de ce qu'on a appelé l'impasse du capitalisme sans capital. Et donc on voit que pour financer ces projets, on aura en plus besoin de mettre davantage de fonds propres et moins de dettes. Et donc ça pose bien la question que Jérôme Glachand évoquait tout à l'heure, qui est face à ces besoins d'investissement long, face à ces besoins de fonds propres, eh bien, qu'est-ce qu'on peut mettre en face, hein. Et donc la quadrature, en quelque sorte, du cercle qu'il faut résoudre, c'est qu'on a d'un côté des besoins d'investissement long qui sont très importants dans nos économies matures, et puis en face de ça, on a une épargne domestique qui est soit liquide, soit, disons, averse au risque, hein, qui est porté vers le financement des déficits publics. Et puis, on a de l'autre côté des finances publiques qui sont de plus en plus sous contrainte. Et donc, la question, c'est comment financer si on manque d'épargne longue et si on manque d'argent public, comment est-ce qu'on va financer ces besoins d'investissement? Alors, je crois que la réponse que nous esquissons, hein, dans le rapport du Conseil d'analyse économique qu'Éric mentionnait, je crois qu'on esquisse trois types de réponses. Alors, je crois qu'il y a une première réponse qui est un peu en amont des questions financières, c'est les questions de la vérité des prix. Hein. Quand on est sur la question du développement durable, je crois qu'il y a une première question essentielle qui est quel prix on donne à un environnement sain, à un air pur, et comment est-ce qu'on taxe la pollution. Moi, il se trouve que dans un autre contexte, j'avais travaillé d'ailleurs avec Christian Gollier également sur les questions de valeur du carbone. Et donc, je crois que ce qui est important de bien comprendre, c'est que si on ne taxe pas suffisamment les émissions de carbone, si on ne taxe pas suffisamment la pollution, on aura du mal à déclencher des investissements privés massifs qui développent des solutions, soit d'économie d'énergie, soit des alternatives au pétrole. Hein. Si ce n'est qu'en taxant correctement avec des mécanismes, soit de permis, soit de taxes carbone européennes, c'est en taxant, je dirais, correctement les pollutions liées aux consommations actuelles d'énergie fossile que l'on rendra rentable des investissements privés qui permettront de trouver des solutions de rénovation thermique des bâtiments, des alternatives en matière d'énergie renouvelable. Et je pense que si on n'a pas ce juste prix de la pollution, eh bien, on aura du mal à déclencher des choix d'innovation et d'investissement privé. Et donc, il faudra s'en remettre à ce moment-là de l'investissement public. Mais comme je l'ai dit, là, on butera sans doute sur la contrainte budgétaire. Donc, je crois qu'il faut considérer que la première chose que l'État peut faire, et qui ne coûte rien, je dirais même qui, à certains égards, rapporte, pour favoriser l'investissement long, et notamment les investissements longs dont nous avons besoin pour le développement durable, c'est de donner un juste prix aux pollutions et aux ressources rares. Alors ensuite, le deuxième levier sur lequel on peut agir, c'est effectivement essayer de consolider, je dirais, une nouvelle classe d'investisseurs qui est apparue au cours des années récentes, qui sont les investisseurs de long terme. Classe d'investisseurs dans lequel je range les compagnies d'assurance, les caisses des dépôts, puisqu'il y a une caisse des dépôts en France, mais aussi en Allemagne, en Italie, au Québec, au Maroc, et puis les fonds de pension à cotisation définie, voilà, et puis peut-être d'autres investisseurs, mais voilà les principaux. Hein. Et les fonds souverains, bien sûr. Je vais y revenir. Alors, je crois que ce qu'on appelle investisseur de long terme, je crois que pour bien caractériser l'investisseur de long terme, il faut regarder le passif. Hein, quand vous regardez le bilan de ces investisseurs, vous regardez le passif. Et ce qui fait la force d'investisseur de long terme, c'est que c'est un investisseur qui est peu dépendant des refinancements de marché. hein, ou peu endetté. Et donc, c'est un investisseur qui peut, en termes de ressources à son passif, se reposer, entre guillemets, sur des fonds propres, sur des ressources stables qui peuvent être soit une épargne contractuelle de type assurance vie, soit une rente pour les pays qui bénéficient de rente, que cette rente soit une rente de matières premières comme les fonds souverains, ou bien une rente d'excédent de réserve de change, hein. Et donc le fait d'avoir un passif qui soit long, qui soit sûr, qui soit peu dépendant du marché, va vous donner une force considérable pour investir et investir de manière utile dans l'économie. Alors je crois que quand on regarde les bénéfices potentiels que peuvent apporter ces investisseurs de long terme, je crois qu'il y en a de trois ordres. La première famille de bénéfices, c'est que les investisseurs de long terme jouent le rôle d'amortisseurs de crise. Je crois qu'on l'a vu d'ailleurs en 2008 notamment, c'est que dans une situation, je dirais, de crise aiguë, hein, de débâcle financière, ce qui fait la force de l'investisseur de long terme, c'est que comme il a un passif qui est long, comme il n'a pas à se refinancer sur les marchés, eh bien, il peut tenir ses positions. Hein, il n'est pas obligé, il n'est pas vendeur forcé, comme on dit, mais il est capable de garder ses actifs et de passer la crise sans alimenter le mouvement de baisse et de chute de cours. Et donc là, la grande force de l'investisseur de long terme, c'est de tenir, hein, dans la crise, et son utilité, je dirais, sociale, c'est de pouvoir, parce qu'il peut tenir, je dirais, amortir et lisser les chocs dans le temps. Donc je crois que c'est un premier rôle utile, c'est le rôle dans la crise. Alors le deuxième bénéfice de l'investisseur de long terme, c'est, je dirais, au-delà des crises, d'être aussi capable de prendre le risque d'investir dans des actifs qui sont des actifs à rendement différé ou peu liquide. Hein, quand vous regardez par exemple quand vous voulez investir dans une nouvelle infrastructure, hein, type TGV, eh bien, dans un premier temps, il faut construire l'infrastructure. En général, ce sont des travaux qui prennent beaucoup de temps, hein, qui prennent 4 ans, 5 ans. Et donc, quand vous investissez, vous savez que pendant un nombre d'années important, 5 ans, 6 ans, vous n'aurez aucun retour financier et que les retours financiers vont arriver de manière très étalée dans le temps. Hein. Et donc, il y a beaucoup d'investisseurs qui n'ont pas cette patience, entre guillemets, d'attendre 5 ans, 6 ans pour avoir des premiers retours financiers. Et donc, l'intérêt d'un investisseur de long terme, c'est de pouvoir accepter des rendements différés, donc d'être patient. Et puis, le deuxième bénéfice qu'apporte l'investisseur de long terme, c'est qu'il est capable, pour les raisons que j'indiquais précédemment, d'investir aussi dans des actifs qui sont peu liquides. Hein, par exemple, d'investir via le capital risque dans des start-up, des entreprises de croissance qui ne sont pas cotées, et donc avec un investissement qui, là encore, sera différé dans le temps et qui d'ailleurs ne rapportera que dans un nombre limité de cas, puisque le risque lié au financement des start-up est très élevé. Et puis, je crois qu'il y a un troisième bénéfice des investisseurs de long terme, c'est l'implication dans la gouvernance. Hein. Vous savez qu'en économie, il y a une distinction assez célèbre qui remonte à Hirschman entre deux types d'investisseurs. Il y a ce qu'on appelle les investisseurs exit et puis les investisseurs voice. Alors les investisseurs exit, c'est ceux qui votent avec leurs pieds, hein, c'est-à-dire ceux qui expriment leurs préférences en achetant et en vendant. Hein. En gros, ce sont les marchés financiers qui apportent de la liquidité, mais avec beaucoup de rotation des actifs. Et puis, vous avez de l'autre côté les investisseurs voice, qui sont des investisseurs qui, eux, restent plus longtemps dans les entreprises, mais qui, en contrepartie, je dirais, de leur investissement long, eh bien, s'expriment dans la gouvernance, recherchent l'information pertinente et puis cherchent à peser dans une perspective de long terme sur les choix des entreprises. Et donc, il y a aussi une utilité, je dirais, collective, hein, à ce qu'un certain nombre d'investisseurs ne jouent pas les passagers clandestins, hein, mais cherchent à acquérir de l'information sur une entreprise et puis à peser sur les stratégies. Hein. Alors, il faut d'ailleurs, là je suis en train de faire le panégyrique des investisseurs de long terme, mais je ne dis pas ça, je ne vais pas jusqu'à dire évidemment qu'il faudrait que toute l'économie, toute la finance se transforme en investissement long. Je crois que c'est important de garder en tête que l'économie, la finance a besoin de biodiversité et qu'on a besoin à la fois d'avoir des marchés, des investisseurs longs. Hein. Par exemple, quand on regarde le financement de l'innovation, c'est utile d'avoir dans un premier temps du capital risque qui s'investit en s'impliquant dans la gouvernance et puis ensuite de pouvoir ensuite valoriser cet investissement sur des marchés liquides. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer, je dirais, de consolider les investissements longs? Alors, Jérôme l'a déjà évoqué, donc je ne m'appesantirai pas là-dessus. Il y a évidemment la question des normes comptables, dans lequel c'est vrai que les normes comptables, lorsqu'elles sont trop mark-to-market, ont tendance à répercuter dans les comptes des entreprises, des investisseurs, la volatilité des marchés, sans doute pas une bonne idée. Et puis il y a les normes prudentielles, où là il faut trouver le bon équilibre, c'est-à-dire qu'il faut effectivement que les normes prudentielles permettent de gagner en sécurité hein, et éviter les crises, et en même temps qu'elles ne pénalisent pas les investissements en actions. Et puis le dernier levier, je dirais, pour favoriser l'investissement long que je voudrais mentionner, c'est le rôle de l'État. Il est assez clair que historiquement, l'État a toujours joué un rôle très important dans le financement de l'innovation et dans le financement des infrastructures. D'ailleurs, aujourd'hui encore, c'est très largement vrai, quand vous regardez même le financement du capital risque aux États-Unis, eh bien, via les commandes publiques et toute une série de mécanismes de garantie, il reste très largement public. Alors, simplement, ce qu'on essaye de montrer dans notre rapport, c'est qu'évidemment, dans un monde où les finances publiques sont très contraintes, il faut que l'État se mette véritablement sur son avantage comparatif. Et son avantage comparatif, c'est d'essayer d'exercer un effet d'entraînement sur l'investissement privé en organisant un bon partage des risques. Alors, le partage des risques, il peut se faire de différentes manières. Quand vous regardez les infrastructures, on a ce qu'on appelle maintenant les partenariats publics-privés. Hein. Et donc, lorsque les partenariats publics-privés sont bien dessinés, eh bien, on fait porter à chacun le risque qu'il est le mieux à même de supporter. C'est-à-dire que dans un partenariat public-privé d'infrastructures, on va faire porter sur le secteur privé le risque de construction, de maintenance, d'exploitation et de disponibilité d'ouvrage. Hein. Et puis, on fera porter sur le secteur public, sur l'État, le risque de trafic, parce que c'est l'État qui aura décidé en amont du bon dimensionnement de l'infrastructure. Donc là, je dirais, on a le modèle de financement de l'infrastructure qui est actuellement mis en œuvre dans le cadre du Grenelle de l'environnement. Et puis, vous avez, pour le financement des entreprises, un autre type de partage de risque, qui n'est d'ailleurs pas un partage, mais qui est plutôt une mutualisation. Hein. Quand vous regardez, par exemple, ce qui est fait en France, alors notamment par la Caisse des dépôts, c'est qu'on considère que un investissement de long terme public, comme la Caisse des dépôts, mais il y a des exemples à l'étranger, eh bien, il est capable d'investir dans un grand nombre de projets d'entreprise, hein, et à ce titre-là, d'organiser, mieux que le marché peut-être ne peut le faire, une mutualisation, une répartition des risques. Hein. Et donc c'est pour ça que vous avez des programmes dont vous avez peut-être déjà entendu parler, France Investissement, et puis plus récemment le Fonds Stratégie d'Investissement, dans lequel l'État, finalement, partage le risque avec des investisseurs privés pour favoriser l'émergence d'un grand nombre de projets, notamment de projets de développement des PME. Hein. Donc voilà en quelques mots quelques éléments pour alimenter le débat. En conclusion, ce que je voudrais dire, c'est que le choix du long terme, c'est en fait assez largement un choix éthique, hein, parce que quand on parle du long terme, on parle d'abord de la capacité à traverser les cycles, donc on parle de résilience, on parle de patience. Et puis lorsqu'on parle de long terme, et notamment dans le domaine du développement durable, on parle plutôt de la capacité à se projeter au-delà des générations présentes, et donc on parle implicitement d'altruisme à l'égard des générations futures. Voilà, merci.
Merci Alain Quignet.